Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous savez maintenant que l'Église vit son week-end de rentrée depuis hier. Et c'est vrai, le thème choisi pour cette année est celui de l'unité de l'Église. Nous avons vu hier que cette unité nous venait de Dieu, Dieu qui est un. En Jean chapitre 17, nous lisons que Jésus a prié pour ça. Et assurément, le Père a exaucé sa prière. L'Église est née, l'unité nous est donnée. Au sein de l'humanité corrompue, il y a une nouvelle humanité. Des hommes et des femmes qui croient en Christ, qui sont transformés par l'Esprit et qui sont unis les uns aux autres par l'Esprit. Formant une seule famille qui a Dieu pour Père. Nous avons vu également que cette unité qui nous est donnée nécessite des efforts de notre part. Efforcez-vous, écrit l'apôtre Paul, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et si nous écoutons la même parole prêchée par des personnes qualifiées et données par Dieu à l'Église, si nous nous servons les uns les autres dans le but de nous édifier dans la foi, alors nous grandirons. L'Église gagnera en maturité, unie dans une même foi, connaissant toujours mieux le Seigneur qui a donné sa vie pour elle. Conserver l'unité, c'est tout un programme. Et ce week-end que nous vivons est l'occasion pour notre Église d'évaluer où nous en sommes dans nos efforts à conserver l'unité. Et cette évaluation, nous la menons en lisant la parole de Dieu. Et il se trouve que ce n'était pas évident non plus pour les églises du premier siècle de notre ère. L'apôtre Paul écrit à plusieurs communautés pour les exhorter à vivre cette unité, parce que désormais, ils appartiennent tous au même Seigneur, au même Dieu. Il n'y a plus de raison d'être divisé. Et parmi ces communautés, il y a celle de la ville de Philippe, cette ville qui se situe en Macédoine, près de la Grèce. Une église que l'apôtre a fondée et pour qui il exprime une affection toute particulière. Bien qu'en prison, à cause de l'évangile, Paul écrit à cette église pour donner de ses nouvelles. Il sait que seul le Seigneur le libérera de prison pour qu'ils puissent tous se revoir. Et parmi les exhortations qu'il donne aux Philippiens, il les encourage à rester unis, à combattre ensemble pour la foi de l'Évangile, à s'aimer les uns les autres en faisant preuve d'humilité, à l'exemple de Jésus-Christ. Et puisque nous appartenons aussi au Christ en tant qu'Église, nous sommes exhortés à vivre les mêmes choses, d'une manière concrète. Et je vous propose pour cet après-midi de nous arrêter sur trois exhortations qui vont peut-être constituer aussi trois défis pour notre Église. La première exhortation est celle-ci, conduisons-nous d'une manière digne de l'Évangile. Conduisons-nous d'une manière digne de l'Évangile. Et si on peut afficher le texte à partir du verset 27, c'est l'expression que Paul emploie ici, au verset 27. Que signifie se conduire d'une manière digne de l'Évangile ? Cela ressemble à ce que nous avons lu hier dans Éphésiens chapitre 4, lorsque Paul écrit « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Dans l'un ou l'autre cas, il s'agit de vivre d'une manière conforme à ce que nous déclarons être, c'est-à-dire des chrétiens, des disciples du Christ, des enfants de Dieu sauvés par grâce. Il s'agit de mener toute notre vie comme Dieu nous appelle à le faire. Se conduire d'une manière digne de l'Évangile, c'est tout le contraire de l'arrogance, car nous ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit. C'est Christ, comme nous l'avons chanté, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. C'est par cette œuvre que nous recevons la grâce d'être sauvés de la condamnation que nous méritions. C'est par cette œuvre de Christ qu'une vie nouvelle est possible. Se conduire d'une manière digne de l'Évangile, c'est donc vivre cette nouvelle vie. Et Paul rappelle donc aux Philippiens de ne pas oublier qu'ils sont chrétiens et qu'ils doivent vivre d'une manière cohérente avec leur foi. Le sens du verbe que Paul utilise est peut-être plus riche que ce que nous avons dans cette traduction. Par exemple, dans la version Semeur, le même verset est traduit ainsi : « Mener une vie digne de l'Évangile de Christ en vrai citoyen de son royaume. » Le verbe grec peut signifier « se conduire en citoyen ». À l'époque, les Philippiens étaient d'un point de vue civil et d'un point de vue terrestre des citoyens romains. Mais d'un point de vue spirituel, ils étaient citoyens du royaume de Dieu. Et vivre d'une manière digne de l'Évangile, cela revient aussi à tenir ferme, à rester attaché à cet Évangile, à combattre pour la foi. Et c'est pour ça que nous lisons au verset 27, « Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. » La réalité est qu'il n'est pas facile de vivre conformément à sa foi dans un environnement où vous risquez d'être critiqué, d'être moqué, d'être persécuté. Et Paul mentionne ici les adversaires auxquels l'Église de Philippe doit faire face, des gens qui cherchent à décourager ou à détourner la foi des Philippiens. Ce n'est pas facile de rester chrétien dans ce contexte-là. Il s'agit dans ces moments-là de tenir ferme, tout seul, non, ensemble, dans un même esprit, combattant d'un même cœur. Et cela nous rappelle encore une fois que nous avons besoin des uns et des autres. Aujourd'hui, le mensonge auquel croient certains chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'Église pour marcher avec le Christ. Ils peuvent suivre un culte en distanciel sans jamais être en contact direct avec une communauté. Et cela leur suffit. Mais c'est un mensonge de le croire. Questionnons plutôt nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi. Est-ce qu'ils préfèrent être isolés ou vivre la communion fraternelle? Selon vous. Si Christ a sauvé des gens issus de toutes les nations, c'est pour qu'ils puissent vivre ensemble et tenir bon ensemble, en particulier dans les temps de persécution. Il s'agit de persévérer dans ces moments-là. Et la persévérance dont les chrétiens peuvent faire preuve, eh bien cette persévérance est la preuve que Dieu est avec eux, qu'ils sont du côté des sauvés. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Je relis ce verset 29. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais de souffrir pour lui. Souffrir pour Christ. Souffrir parce que nous sommes croyants et que d'autres ne le comprennent pas. C'est une grâce du Seigneur. Ça paraît presque fou de lire une telle affirmation. Souffrir pour Christ, c'est une grâce du Seigneur. Mais quelle serait la valeur de l'Évangile si ceux qui y adhèrent l'abandonnent dès les premiers signes de persécution? Cela voudrait dire que ce message serait sans valeur. Mais s'il y a des gens qui risquent leur vie, alors peut-être qu'il y a quelque chose à voir dans ce message, et ce message qui nous oriente vers un seul Sauveur, Jésus-Christ. Au contraire, vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'est être prêt aussi à souffrir, parfois jusqu'à perdre sa vie, sans renoncer à Jésus-Christ. Les Philippiens devaient mener un tel combat pour conserver leur foi, comme l'apôtre Paul, qui a connu aussi de l'opposition et qui, au moment où il rédige cette lettre, est en prison. En ce qui nous concerne, nous ne vivons pas dans un contexte de persécution comme c'est le cas dans d'autres pays du monde. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous n'allons pas vivre d'une manière digne de l'Évangile. Bien au contraire, nous continuerons à mener une vie qui témoigne de l'Évangile par notre conduite, par nos choix de vie, par nos discours. Et nous continuerons à le faire en nous encourageant mutuellement à tenir ferme. Est-ce que nous le faisons, ça ? De nous encourager mutuellement à tenir ferme, alors que nous ne vivons pas dans un contexte de persécution forte. Si un jour ce lieu devait être fermé, est-ce que nous continuerons à rester unis ? Voici un exemple de cette persévérance malgré la persécution. L'année dernière, lorsque la pandémie a démarré, les chrétiens qui se trouvaient en Chine étaient dans la même situation que nous, confinés. Le pouvoir en place a voulu et veut toujours avoir un contrôle sur les églises. Mais cela n'a pas freiné la détermination de ces chrétiens. Et sur le site de Portes Ouvertes, nous lisons ceci. Pendant la pandémie, les réunions hebdomadaires en ligne sont devenues quotidiennes, ce qui agace les autorités. Et un pasteur de Wuhan déclare « Les autorités nous ont dit de ne plus tenir de réunions en ligne, mais comme elles n'ont pas les moyens de faire respecter l'interdiction, les réunions continuent. » Un exemple de la persévérance au cœur de la persécution. Dieu est à l'œuvre pour aider ses enfants à persévérer dans la foi. Et ce combat ne se mène pas seul, mais il se mène en Église. Mais comment combattre ensemble si l'Église a du mal à rester unie ? Et c'est là que nous en venons à la deuxième exhortation. Vivons en plein accord. Vivons en plein accord. L'apôtre Paul poursuit sa lettre en se focalisant sur l'unité qui doit régner au sein de l'église de Philippe. Apparemment, les relations entre les membres n'étaient pas tout à fait harmonieuses. Il y avait sûrement de la rivalité entre les membres, de l'orgueil mal placé. Et nous savons qu'un peu plus loin dans la lettre, au chapitre 4, Paul encourage deux sœurs qui ont combattu pour l'Évangile à ses côtés, à se réconcilier. Donc effectivement, il y avait des soucis, des problèmes relationnels dans cette Église. Au point que Paul doit écrire dans cette lettre et demander à deux sœurs de pouvoir se réconcilier. Une lettre qui était lue devant l'Église. Or, est-ce digne de l'Évangile d'en rester là avec ses problèmes relationnels dans l'Église ? Paul exhorte, au contraire, dans le sens de l'amour, dans le sens de l'unité. Au chapitre 2, verset 1, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Voilà les efforts que les Philippiens doivent faire dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres. Vivre en plein accord. Après tout, ils ont la même foi en Christ. Ils ont reçu le même esprit. Ils savent que Dieu les aime et sans doute qu'à leur début, ils ont expérimenté l'amour les uns pour les autres. Mais avec le temps, avec le caractère des uns et des autres, avec peut-être une vision différente de vivre l'Église, eh bien, peu à peu, le désaccord s'est installé. Ayez un même amour. Et c'est bien ce que Jésus a commandé à ses disciples, et par extension à l'Église, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et Jésus nous a aimés alors que nous n'étions pas parfaits. D'ailleurs, nous ne le sommes toujours pas. De la même manière, nous savons qu'aucun d'entre nous n'est parfait, mais cela ne nous empêche pas de nous aimer. Peut-être que certains d'entre vous, avant de devenir chrétiens, n'aimaient pas les chrétiens. Mais dès lors que vous avez cru en Jésus et que vous avez accepté son amour pour vous, alors vous vous êtes mis à aimer ceux que vous n'aimiez pas auparavant. Parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, dont le fruit est l'esprit et l'amour. Et vous vous êtes mis à aimer. L'unité dans l'Église se vit par l'amour. Une Église où il n'y a pas d'amour, c'est bien triste. Ayez un même cœur, une unité de pensée. Nous l'avons vu hier, nous formons un seul corps. Et ce corps doit avancer avec un même cœur et une même pensée. Ce n'est pas un corps schizophrène. Si nous croyons en la parole de Dieu, si nous croyons au même évangile, alors oui, nous allons être d'accord pour aller dans la même direction, pour grandir ensemble vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. C'est vraiment la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui peuvent nous mettre d'accord. Cette année, nous travaillons sur la vision de l'Église, pour avancer justement dans une direction commune. Et dans ce travail de réflexion qui se poursuit, et c'est pour ça que ce week-end n'était pas encore le bon moment pour présenter une vision, nous voulons vraiment tenir compte de ce que Dieu dit dans sa parole pour être fidèles à la vocation de l'Église dans ce monde. Que tous soient un pour que le monde croie. Si j'ai proposé ce thème de l'unité pour ce week-end, c'est parce qu'en faisant les ateliers de réflexion sur la vision dans les différents groupes de maisons, j'ai constaté que les uns avaient telle vision de ce que nous sommes censés faire, et les autres avaient une toute autre vision. Que le Seigneur nous aide à être d'accord. Qu'il nous montre sa vision pour l'Église de Saint-Maur. La première exhortation, c'était de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile, en combattant ensemble pour la foi. La deuxième exhortation, c'est de vivre en plein accord, car c'est ainsi que l'Église qui confesse Christ est censée vivre. Et justement, si cela ne va pas de soi, c'est parce qu'une qualité fait défaut dans l'Église de Philippe, l'humilité. Et c'est l'objet de la troisième exhortation. Avec humilité, considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Avec humilité, considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Quand nous lisons les versets 3 et 4, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. » Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Quand on lit ces versets, nous avons bien l'impression que certains dans cette église de Philippe étaient probablement particulièrement orgueilleux et sans doute hautains, méprisants. Et c'est vrai, si nous laissons l'orgueil prendre de la place dans notre cœur, il est alors si facile de ne plus avoir de considération pour les autres, de ne plus les aimer comme Christ nous a aimés. Et le propos de Paul est assez général pour que nous puissions penser à des tas de situations où nous manquons d'humilité. La tentation est grande quand nous nous comparons aux autres. Regarde l'autre. Il ne vient jamais au groupe de maison. Moi, au moins, je fais des études bibliques. Ah, je prie plus que l'autre. Je le vois bien. J'ai une meilleure relation avec Jésus que l'autre. Moi, au moins, je connais mieux la Bible, alors que l'autre, je sais qu'il ne la lit jamais. Dans mon service, je sais que c'est moi qui sers le mieux. Les autres sont plutôt incompétents. Est-ce qu'il nous est arrivé d'avoir eu de telles pensées? Cela est le contraire de l'unité, de l'idée d'unité. Parce que celui ou celle qui a du mal à prier régulièrement devrait trouver dans l'Église le soutien, l'encouragement d'un frère ou d'une sœur qui prie régulièrement et qui lui dit « Je constate que ce n'est pas facile pour toi d'avoir une vie de prière régulière. Est-ce que nous pouvons prier ensemble ?» Celui ou celle qui n'a pas une très bonne relation avec le Seigneur devrait trouver dans l'Église le soutien, l'encouragement d'un frère ou d'une sœur qui a une bonne relation avec le Seigneur. Celui ou celle qui connaît peu la Bible, parce qu'il ne la lit pas souvent, devrait trouver dans l'Église le soutien, l'encouragement d'un frère ou d'une sœur qui connaît la Bible. N'est-ce pas ainsi que nous commençons à considérer les intérêts des autres? Dieu a placé dans la même Église des personnes qui sont avancées dans la foi et des personnes qui apprennent encore les rudiments. Mais ils font partie de la même Église. Alors nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Si je pense à ceux qui sont moins compétents que moi, est-ce que j'arrive à voir qu'ils sont supérieurs à moi? Je pense que c'est difficile. Est-ce que cela constitue un défi pour chacun d'entre nous lorsqu'on relit ces versets-là? Et sans doute que nous n'avons jamais assez d'humilité en nous. Mais quel est le regard, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, quel est le regard que nous nous portons les uns aux autres? Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, comme plus importants que nous-mêmes. À quoi ressemblerait notre vie d'Église si nous mettions cette parole en pratique? Et pour faire comprendre ce qu'est l'humilité, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, fait référence à l'exemple le plus éloquent. Et en fait, il s'agit même de suivre cet exemple-là. Nous avons chanté un chant, « Je te suivrai, Jésus. » Et cette fois-ci, nous avons cet exemple sous les yeux. Et l'exhortation de Paul est que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui s'adresse à chaque croyant. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Pas seulement ceux qui sont plus avancés dans la foi, mais aussi ceux qui démarrent dans la foi, ou ceux qui ont du mal. Tous, par rapport à cette parole, ont besoin de l'entendre et de l'appliquer. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Eh bien, quelle est cette attitude de Jésus-Christ? Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ces versets que beaucoup de spécialistes considèrent comme un hymne nous décrivent précisément comment celui qui est Dieu de toute éternité accepte de délaisser ses privilèges, accepte de quitter la gloire qu'il avait auprès de Dieu le Père pour s'abaisser, pour être ce serviteur venu pour servir et non pour être servi. Pour cela, Jésus a accepté de passer par l'incarnation, de devenir homme tout en restant Dieu, mais de devenir homme. Jésus a accepté d'être celui qui est sacrifié à la place des hommes. Il s'est humilié lui-même, c'est-à-dire volontairement. Et là, nous voyons son humilité. Et par obéissance au Père, conformément au plan qui devait conduire à notre salut, Jésus meurt sur une croix. Jésus meurt sur une croix. C'est un sort horrible pour l'homme Dieu. Mais là aussi, il était volontaire. Est-ce que vous prenez conscience de cela ? Il n'y a pas de plus grand abaissement que celui auquel Christ a consenti. De passer de cette condition divine et de cette égalité avec Dieu et de cette gloire avec Dieu jusqu'à ensuite partager notre condition. Il n'y a pas de plus grand abaissement que celui-là. Et c'est pourquoi il mérite la plus haute place. C'est à lui que revient le nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui fait tellement autorité que toute la création se soumettra à lui quand il reviendra. Et tous ne pourront que reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus nous a montré l'exemple de l'humilité, et Paul utilise cet exemple pour exhorter l'Église à vivre cette humilité dans les relations les uns avec les autres. Jésus nous a montré l'exemple de l'humilité parce qu'il a considéré nos intérêts alors que nous méritions qu'il ne s'y intéresse pas. C'est sûr, c'est l'amour qui l'animait. Et bien de la même façon, que notre attitude suive ce même chemin. Face à ces trois exhortations que nous avons vues, le fait de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile, le fait de vivre en plein accord, le fait qu'avec humilité nous considérions les autres comme supérieurs à nous-mêmes, je pense qu'effectivement c'est un défi pour nous en tant qu'Église. Et c'est vrai que lorsqu'on considère cela, on pourrait se sentir totalement dépassé, mais n'oublions pas, Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de Christ, l'esprit qui nous rend capables d'appliquer ses paroles, de le vivre. C'est vrai, c'est un week-end de rentrée qui nous introduit peut-être dans une nouvelle période, dans une nouvelle phase de l'histoire de l'Église de Saint-Maur. Mais à partir de ce texte que nous avons lu cet après-midi, sommes-nous justement prêts à relever ces défis ? Pour vivre cette réalité d'une seule Église, une Église unie, une Église qui avance ensemble. Je vous invite à prendre un temps pour répondre à la parole de Dieu, de reconsidérer encore une fois ces trois exhortations et de voir là où peut-être le Seigneur vous interpelle davantage. Est-ce qu'il s'agit du fait de se conduire d'une manière digne de l'Évangile ? Est-ce que cela constitue un défi pour toi ? Ou alors, est-ce que c'est le fait de vivre en plein accord, en étant en accord avec les autres, avec les frères et sœurs dans l'Église ? Est-ce que ça, c'est un défi pour toi ? Ou encore, ton défi, c'est de faire preuve de plus d'humilité à l'exemple de Jésus, de pouvoir considérer les autres comme supérieurs à toi-même, de considérer les intérêts des autres. Et par rapport à tout cela, tu peux à présent répondre au Seigneur. Notre Dieu, peut-être qu'en lisant ce texte, nous nous disons que finalement les premiers chrétiens n'étaient pas forcément meilleurs que nous. Et cela nous rassure un peu. Mais cela n'est pas une raison finalement. Et cela ne justifie pas nos manquements. Et c'est pour cela que nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon de ne pas suffisamment considérer l'aspect de l'unité de l'Église, de ne pas suffisamment considérer le fait de vivre en plein accord les uns avec les autres, de combattre ensemble pour la foi de l'Évangile. Pardonne-nous, Seigneur, parce que peut-être de manière très prompte, nous ne considérons pas les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et nous avons plutôt tendance à nous enorgueillir. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela, pour les péchés de ton Église. Et nous sommes convaincus d'une chose, c'est que si cet après-midi encore, tu nous parles par ce texte, si tu nous exhortes à changer d'attitude, alors il y a un espoir. Il y a un espoir de pouvoir suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui a connu le plus grand abaissement, qui nous a montré l'exemple de l'humilité. Apprends-nous, Seigneur, s'il te plaît, à pouvoir adopter cette attitude dans nos relations les uns avec les autres, à rester humble. Nous ne savons pas tout. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons été graciés de la même manière. Mais toi, Seigneur, oui, Seigneur Jésus, toi, tu as été élevé à la plus haute place et ton nom est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse partout dans la création. et pour qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.